Simon-Pierre, sa vie et ses épîtres, par W.T.P. Wollstone, édition 1950. Chapitre 6. La double confession. Jean 6, versets 22 à 71. Le lendemain, la foule qui était de l'autre côté de la mer, voyant qu'il n'y avait point là d'autre petite nacelle que celle-là, sur laquelle ses disciples étaient montés, et que Jésus n'était pas entré avec ses disciples dans la nacelle, mais que ses disciples s'en étaient allés seuls, mais d'autres petites nacelles étaient venues de Tibérias près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lors donc que la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils montèrent eux-mêmes sur les nacelles et vinrent à Capernaum cherchant Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit et dit, « en vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. » Car c'est lui que le Père, Dieu, a scellé. Ils lui dirent donc, « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent donc, « Quel miracle fais-tu donc, toi, afin que nous le voyions et que nous te croyons ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit. Il leur a donné à manger du pain venant du ciel. » Jésus donc leur dit, « en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs donc murmuraient contre lui parce qu'il avait dit, « Moi je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère ? Comment donc celui-ci dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus donc répondit et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus donc leur dit, « en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs donc de ses disciples l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'ouïr ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas, car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il dit, « C'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné du Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un diable ?» Or, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le livrer, lui qui était l'un des 12.
Matthieu 16, versets 13 à 28.
Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Et ils dirent, « Les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondant dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondant lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il fut le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. »
Ces deux passages nous apportent deux témoignages rendus par Pierre au Seigneur Jésus. Il est très important de confesser Christ courageusement, car le Saint-Esprit a dit «
Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. »
Romains 10, verset 9. Le récit de Jean 6 doit être antérieur à Matthieu 16. Le Seigneur Jésus n'avait pas encore passé par la mort, et Pierre ne supposait même pas qu'il devrait mourir sur la croix. Ses confessions ardentes, impétueuses, nous prouve qu'il n'avait pas seulement une connaissance intellectuelle de la personne de Jésus, mais elle témoigne de son attachement profond à Christ. Lorsque Pierre marcha sur les eaux pour aller à Jésus, nous avons vu qu'il n'arriva pas jusqu'à Jésus, mais que Jésus lui-même s'approcha de lui. Il n'avait qu'un désir, celui d'être près de Jésus. Avec le Seigneur dans la nacelle, les disciples atterrissent tout de suite au lieu où ils désiraient se rendre et découvrent ainsi qu'ils avaient le Fils de Dieu avec eux. C'était la veille du récit rapporté à la fin de Jean 6. Le Seigneur alors donne un message saisissant et merveilleux.
« Je suis le pain de vie. »
Et
« Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. »
Que cette pensée soit claire pour nos cœurs. Si nous ne mangeons la chair du Fils de l'homme, et si nous ne buvons son sang, nous n'avons pas la vie en nous. Il ne s'agit pas de la scène, mais nous avons ici un fait, une réalité. La scène en est l'image, le symbole. On peut participer à la scène plusieurs fois et passer l'éternité en enfer, mais personne ne pourrait manger la chair du Fils de l'homme et ne pas avoir la vie éternelle. Quand le Seigneur disait ceci, il savait qu'il devrait mourir, mais aussi qu'il ressusciterait et s'assiérait à la droite de Dieu. Il allait faire une œuvre par laquelle l'homme serait amené à Dieu, une œuvre qui rendrait le croyant capable d'aller là où il est, lui, maintenant. C'est pourquoi le Seigneur insiste sur la nécessité de le connaître, lui, de se nourrir de lui.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour.
Verset 54. Et encore.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Verset 56. En un mot, il dit aux croyants, nous sommes un. C'est un grand bonheur que de prendre la scène avec les saints de Dieu, mais ce n'est là que le symbole. Le Seigneur veut dire ici que nous devons l'accepter dans sa mort et nous nourrir de lui dans la mort. Alors seulement nous aurons la vie pour nos âmes. À l'ouïe de ces paroles, les Juifs murmurent, et Jésus leur dit,
« Ceci vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. »
Versets 61-62. Il est remonté, circonstance infiniment plus bénie pour nous que s'il était sur cette terre. Car, du moment qu'il est dans la gloire, il nous a envoyé l'Esprit Saint pour habiter au milieu de nous et pour demeurer dans chaque croyant. Ainsi nous avons le sentiment de la présence du Seigneur où que nous soyons.
Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui.
Verset 66. Ils avaient espéré qu'il établirait un royaume dans la puissance et la gloire du Messie. Il ne leur plaît pas d'entendre parler de sa mort, et ils le quittent assez nombreux. Jésus s'adresse alors aux 12.
« Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?»
Verset 67. Pierre répond ardemment.
« Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Magnifique témoignage quand la plupart l'abandonnent. Pierre, pour ainsi dire, jette un cri désespéré. « Te quitter, Seigneur, jamais !»
Nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu.
Ce n'est pas « j'espère » ou « je suppose », mais « nous croyons et nous savons ». rien de la tiédeur de notre siècle qui ne comporte ni certitude, ni cette merveilleuse assurance que possédait Pierre quant à la personne de Christ et aux choses éternelles. Pierre pouvait bien dire « Auprès de qui nous en irions-nous ? D'autres étaient partis, ou, nous ne savons, ils disparaissent et il n'en est plus question. Peu importe. » En posant cette question, le disciple se rendait compte combien il est misérable de se détourner de Christ au moment de la difficulté. Où, dans tout l'univers, trouver quelqu'un comme son maître béni ? Il n'y en avait pas d'autre, il était unique. Pierre le sentait et le savait, bien que certainement conscient de ne pas atteindre la hauteur de son enseignement. Autre chose était de le quitter. Lui seul pouvait remplir le cœur, donner la paix à la conscience, calmer l'âme et diriger l'homme. Le quitter, jamais. Remarquons deux expressions dans ce témoignage. Tu as les paroles de la vie éternelle et tu es le Saint de Dieu. Pierre ressentait très profondément ce que le Seigneur était et ce qu'il avait lorsqu'il dit « tu es » et « tu as ». Ce qu'il est constitue l'abri sûr et ferme qui nous permet de nous reposer sur lui et sur son œuvre. Ce qu'il a forme la nourriture continuelle de nos âmes pour tous leurs besoins. Il nous donne tout ce qui nous est nécessaire et devient ainsi l'objet de nos affections pour toujours. Il nous donne la vie éternelle et une joie éternelle. Quelle immense erreur de laisser la moindre chose dérober Christ à la vue de nos âmes. L'exclamation de l'apôtre fournit au Seigneur l'occasion de dévoiler une autre situation. Il dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les douze, et l'un d'entre vous est un diable ?» Judas jugea-t-il le moment venu aussi pour lui de partir ? Il continua néanmoins de suivre le Seigneur, et escomptait retirer quelque profit s'il mettait le Seigneur dans une position telle qu'il pût gagner quelque chose. Judas aimait l'argent, non pas Christ. Son Dieu était l'or, son maître Satan, sa fin l'enfer éternel. Voyons maintenant Matthieu, chapitre 16. Le Seigneur se rend aux environs de Tyr et de Sidon, où il guérit la fille d'une femme syrophénicienne. Puis il va en Galilée, dans la Décapolis, et enfin, plus au nord, à Césarée de Philippe. Il ne faut pas confondre cette ville avec la Césarée des bords de la mer Méditerranée, principal port romain de Palestine, où Pierre prêchera plus tard avec tant de succès, acte 10. Césarée de Philippe, connue aujourd'hui sous le nom de Bagnas, était une ville en dehors des limites du pays d'Israël, au pied du mont Hermon, près de la source orientale du Jourdain. Le Seigneur était donc allé jusque sur le territoire des nations. Là, il interroge ses disciples. « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il aime savoir ce que les hommes pensent de lui, savoir si les cœurs sont prêts à le recevoir et s'ils ont découvert qui il est. Ils lui répondent. « Les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Suprême indifférence pour le Fils de Dieu. Les hommes auraient pu et auraient dû savoir. 18 mois auparavant, Jean-Baptiste les en avait informés, les foules étaient accourues. Maintenant, après tant de mois, pendant lesquels il avait visité les villes et les villages prêchant et annonçant le royaume de Dieu, Luc 8, verset 1, rendant de multiples témoignages par des discours, par sa vie, par des miracles qui tous proclamaient Dieu, apporter la bénédiction et avouer la défaite de Satan. Maintenant, le courant avait tourné, et, au lieu de le recevoir comme le Messie, on ne savait pas, on ne cherchait pas même à savoir qui il était. Presque toujours, dans les récits des Évangiles, le Seigneur parle de lui comme étant le Fils de l'homme. Il ne se nomme roi qu'une fois, Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. » Il était roi, mais pas encore couronné et sans trône. Méconnu par la nation, il demande à ses disciples
« Qui dites-vous que je suis ?»
Pierre, de nouveau, se met en avant en face de cette totale indifférence. Dans l'élan de son cœur, aussi bien que par la foi et par son attachement réel à la personne du Seigneur, il répond
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Magnifique témoignage qui doit avoir été cher au cœur du Seigneur et qui entraînait des conséquences bénies, les mêmes que pour nous aujourd'hui, car
« Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. »
Romains 10, verset 9. Une bénédiction riche et complète découle d'une confession simple et vraie de Christ. Que répond le Seigneur ?
« Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. »
L'âme qui connaît Jésus comme le Fils du Dieu vivant reçoit la bénédiction de la part du Père. Sans doute Pierre avait beaucoup appris du Seigneur en le suivant dans sa vie de dévouement et d'abnégation. Mais le Père s'était emparé de ce pécheur galiléen, inculte et illettré, et lui avait enseigné que ce Jésus était le Fils du Dieu vivant. Le Père seul peut nous apprendre cette vérité, car il aime enseigner à l'âme qui recherche Christ les gloires morales de celui qui a été rejeté, de celui qui est en même temps son Fils, le Fils de l'homme et le Sauveur des pécheurs. Le fait que nous sommes incapables de pénétrer la gloire de sa personne est, pour la foi, une garantie de sa divinité. Son abnégation, quand il se fit homme, peut l'avoir caché aux yeux des incrédules, mais il l'a prouvé, comme aussi le fait qu'il est le Fils du Dieu vivant, en ressuscitant d'entre les morts. La vie de Dieu ne peut pas être détruite, et le Fils du Dieu vivant ne peut pas être vaincu par la mort. C'est en ressuscitant d'entre les morts qu'il commence l'œuvre dont il parle ensuite, l'édification de son Église. Ainsi donc, après avoir affirmé que le Père seul pouvait avoir révélé cette dernière vérité, le Seigneur continue.
« Et moi aussi. »
Par ces deux mots, il insiste sur l'importance du nouveau sujet qu'il aborde.
« Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. »
Que veut-il dire ? Il confirme Pierre dans son nouveau nom. Mais où cette pierre devait-elle être édifiée ? Sur le roc.
Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée.
Quel pauvre rocher aurait été Pierre ? Pierre était beaucoup trop semblable à vous et à moi pour être le fondement que les hommes ont voulu voir en lui. Simon était une pierre, mais Christ était le roc. Christ, selon la confession de Pierre, le Fils du Dieu vivant. Pierre aime beaucoup le mot « vivant ». Dans ses épîtres, nous trouvons une espérance vivante, 1 Pierre 1, verset 3, une pierre vivante, chapitre 2, verset 4, et des pierres vivantes, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 1, verset 3
« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
1 Pierre 2, verset 4
Duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu.
1 Pierre 2, verset 5
Comme des pierres vivantes, êtes édifiées une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Quelle chose précieuse dans un monde où tout meurt d'être introduit au milieu de réalités vivantes. Remarquons que le Seigneur dit
« Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. »
Il n'avait pas encore commencé à construire. Quand cela se fera-t-il ? L'Église, le corps de Christ, ne pouvait pas être construite avant que le rocher, donc le Seigneur lui-même, n'eût été posé comme fondement. c'est-à-dire qu'il ne fût entré dans la mort, qu'il ne l'eût annulé, n'en fût ressorti et ne fût entré dans la gloire. Maintenant, assis à la droite de Dieu, il envoie le Saint-Esprit pour unir les croyants qui forment son corps ici-bas, lui-même en étant le chef vivant. Ce n'est pas Pierre qui allait bâtir, mais le Seigneur lui-même.
Je bâtirai,
et non, j'ai bâti. L'assemblée de Christ, son Église, commença à être formée le jour de la Pentecôte, lors de la descente du Saint-Esprit, et elle demeurera jusqu'à la venue du Seigneur dans les airs pour chercher les siens. Voir 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18.
Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles.
De toute éternité, l'Église resta la pensée spéciale de Dieu, mais la vérité à son sujet n'en fut entièrement révélée que par le moyen de l'apôtre Paul. La première allusion que nous en ayons dans toute l'Écriture se trouve dans le passage qui nous occupe, révélation du Seigneur à son cher serviteur Pierre. Le Seigneur ajoute,
« Je te donnerai les clés du royaume des cieux. »
Comment Pierre obtint-il ces clés? Sans doute par la souveraine grâce de Dieu, mais elles n'ont été confiées qu'à un homme qui progresse dans la connaissance du Seigneur. Pierre certainement ne resta pas stationnaire, et quiconque persévère, animé d'une affection sincère pour la personne de Christ, reçoit la lumière et la vérité. Pierre naturellement occupait une place très spéciale par la grâce du Seigneur, il était, dans ce sens, un vase d'élection. Ne perdons pourtant pas de vue le caractère de l'homme. Il reçoit les clés du royaume des cieux, et non pas les clés du ciel. Ce royaume concerne la terre, tandis que l'Église appartient au ciel. Le royaume des cieux, l'administration des choses du Seigneur ici-bas, tandis que lui, le roi, encore méconnu et renié, est au ciel. Sur beaucoup de peintures, on voit Pierre avec les clés pendant à sa ceinture et les brebis rassemblées autour de lui. Mais on ne nourrit pas les brebis avec des clés, pas plus qu'on ne construit avec des clés. La clé sert à ouvrir une porte. Cela fait, elle n'a plus d'utilité. L'image a été mal interprétée. Le Seigneur, sur le point d'aller au ciel, désirait voir son œuvre continuer sur la terre, et il confie l'administration du royaume des cieux à Pierre. Ce terme de « royaume des cieux » ne se trouve que dans l'Évangile selon Matthieu qui ajoute « s'est approché ». Il n'est donc pas tout près. Pierre fit usage d'une de ses clés lorsqu'il parla aux Juifs dans le chapitre 2 des Actes, d'une autre quand il se rendit à la maison de Corneille au chapitre 10 du même livre. En acte 2, dans son discours, il porte l'accent sur le mot « repentez-vous ». Les Juifs devaient se juger eux-mêmes d'avoir crucifié leur Messie. Pour les gentils, ils usent d'une clé qui ouvrira la porte jusqu'alors hermétiquement close à toute bénédiction et dont le mot d'ordre sera « croyez ».
Tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés.
Acte 10, verset 43. Puis le Seigneur continue,
« Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. »
C'est une question d'administration sur la terre et dans l'assemblée, sans rapport avec la manière dont on est sauvé. Pierre détient une place spéciale en ce qui concerne l'administration sur la terre, afin d'agir pour Christ dans l'assemblée, comme le firent plus tard les croyants. Voir Jean 20, verset 23.
Jésus leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. »
Si l'on désire aller au ciel, il faut aller au Sauveur, lui seul peut sauver, comme il le fit pour Pierre. Si l'on fait partie de son assemblée sur la terre, on doit prendre garde à marcher soigneusement, sinon on risquerait de faire une chute, ce qui déshonorerait le Seigneur, et l'on tombe alors sous la discipline de l'autorité conférée à l'assemblée, qui, en éloignant de son sein le coupable, lie le péché qui est sur lui. 1 Corinthiens 5, verset 13.
Mais ceux de dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous-même.
Dès ce moment, le Seigneur change le caractère du témoignage le concernant.
Il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il fut le Christ.
Il leur défend d'annoncer qu'il est le Messie. Pourquoi? Il savait que la nation ne croirait pas, et il n'aime pas augmenter la lumière tant qu'elle est rejetée, car plus grande est la lumière, plus grand est le jugement. Puis nous lisons.
Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il fut ressuscité le troisième jour.
Au lieu de revêtir la royauté, il annonce qu'il va mourir. Ceci, Pierre ne peut le comprendre et,
le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. »
Comment celui qui guérissait les malades, purifiait les lépreux, ouvrait les yeux des aveugles, faisait entendre les sourds, apaisait l'orage et ressuscitait les morts, comment celui-là pouvait-il mourir? Pierre ne le comprenait pas, c'est ce qui lui fait dire
« Cela ne t'arrivera point ».
Quel volume d'instruction dans la réponse du Seigneur!
Lui, se retournant, dit à Pierre, « Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. »
Un instant avant, c'était
« Tu es bien heureux, Simon Barjonas. »
Et maintenant, ce même disciple, le Seigneur le traite de Satan parce que, derrière les paroles de son cher serviteur, il voyait la tentation de Satan lui-même. L'ennemi utilisait Pierre comme d'un vase. Satan essaie souvent d'employer l'enfant de Dieu à son sinistre travail. Mais Jésus, ici, discerne l'auteur de cette suggestion et dit
« Va arrière de moi, Satan !»
Si nous voulons suivre Christ, nous devons accepter son chemin d'affliction et d'opprobre. Si nous refusons la croix, nous n'aurons pas la couronne. Si nous refusons de suivre un Seigneur rejeté, nous goûterons peu la joie de sa compagnie.
« Si quelqu'un veut venir après moi,
ajoute-t-il,
qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. »
Paroles pénétrantes adressées à Pierre, mais aussi à nous.
Puis Jésus dit, « Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera, car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme?
Quel profit retirerez-vous si vous perdez votre âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Les choses contre lesquelles vous échangez votre âme, vous devez toutes les quitter et perdre votre âme aussi. Le chrétien renonce au plaisir du péché, mais il échappe à des moments pénibles sur son lit de mort, comme il échappe au jugement de Dieu et aux peines éternelles. Le Seigneur révèle ensuite les bénédictions futures promises à ceux qui sont siens.
Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite.
Et
il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume.
Nous trouverons la signification de ces derniers mots au chapitre suivant. Chapitre 7. La transfiguration et le tribut. Matthieu chapitre 17.
Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre, répondant, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. » Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? » Et lui, répondant, leur dit, « En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se jetant à genoux devant lui et disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique, et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau, et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le tensa, et le démon sortit de lui, et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples venant à Jésus à l'écart dirent, « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ? » Et Jésus leur dit, « À cause de votre incrédulité, car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le 3e jour il sera ressuscité. » Et ils furent fort attristés. Et lorsqu'ils furent revenus à Capernaum, les receveurs des 10 drachmes vinrent à Pierre et dirent, « Votre maître, ne paie-t-il pas les 10 drachmes ?» Il dit, « Oui. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant, « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers ?» Pierre lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui dit, « Les fils en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le, et donne-le leur pour moi et pour toi. »
Dans notre dernier chapitre, le Seigneur entretenait ses disciples de l'opprobre et de la honte qui atteignent inévitablement ceux qui le suivent, et tout en dirigeant leur regard vers l'avenir. Le verset 27 présenté comme un stimulant à leur piété.
Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite.
La récompense sera en proportion de ce que nous aurons été pour Christ ici-bas. Si nous n'avons pas été fidèles envers lui, il devra refuser le prix, et son cœur en sera attristé. Et le chapitre se termine ainsi.
Il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume.
De nos jours, le Seigneur n'est pas encore revenu dans son royaume, il n'est pas encore apparu dans sa gloire, et ceux qui l'entouraient à cette époque sont tous morts. Que voulait donc dire le Seigneur par
« Ils ne goûteront point la mort »
Bien des gens ont de la peine à comprendre ce passage, mais le premier verset du chapitre 17 va nous aider à résoudre cette difficulté. Trois des disciples virent en figure l'établissement du royaume. Le Seigneur n'avait pas dit « tous ceux qui sont ici présents », mais « quelques-uns ». Dans la seconde épître de Pierre, nous trouvons une preuve à l'appui de cette interprétation.
Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne.
De Pierre 1, versets 16 à 18. Pierre donne l'explication de la vision comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. En d'autres termes, les paroles du Seigneur étaient alors accomplies, puisque quelques-uns d'entre eux purent le voir le Fils de l'homme venant dans son royaume, image et symbole du royaume à venir du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, alors rejeté, reviendrait sur cette terre pour établir sa royauté. Il choisit ses trois disciples pour leur révéler cette perspective. Le symbole était parfait. Moïse représentait ceux qui sont morts, puis ressuscités par le Seigneur. Élie, ceux qui ne mourront pas, mais qui, transmués, seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs quand il viendra chercher ses saints. Enfin, Pierre, Jacques et Jean sont les images des saints vivants sur la terre pendant le millénium. Le récit de la transfiguration est rapporté dans les trois évangiles synoptiques. Jean n'en parle pas. Son évangile présente la gloire morale du Seigneur et non la gloire extérieure et visible que Matthieu, Marc et Luc décrivent. Luc dit
« Il arriva environ 8 jours après ces paroles. »
Chapitre 9, verset 28. « Tandis que Matthieu et Marc, tous les deux,
et 6 jours après. »
Y aurait-il contradiction? Pas le moins du monde. Matthieu écrit au point de vue des Juifs, pour qui le 7e jour était un jour de gloire, et compte après 6 jours. Luc envisage le point de vue de la résurrection, ce qu'indique le 8e jour. Ils ont raison tous les deux. Matthieu n'inclut pas les jours extrêmes, ce que fait Luc, mais exactement 6 jours, 6 jours complets, interviennent entre la prophétie et son accomplissement. Il n'y a ni erreur ni contradiction, pas plus que dans le reste de l'Écriture. Les erreurs qu'on croit trouver sont dans l'esprit de ceux qui lisent la parole de Dieu, et non dans la parole elle-même. Quand le Seigneur emmène ses disciples, c'était le soir. Fatigués, ils durent s'endormir, car, précise Luc,
« quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. »
Évidemment, la gloire du Fils de l'homme se déployait déjà avant leur réveil. Jésus était monté sur la montagne pour prier. Il pria probablement jusque tard dans la nuit, et, pendant ce temps, ses trois disciples dormaient. Alors la gloire magnifique, reçue de Dieu le Père, brille autour du Fils de l'homme, non la gloire divine sur laquelle un voile avait été jeté durant tant d'années, mais la gloire qu'il reçoit du Père maintenant comme Fils de l'homme. Pierre, hélas, si peu en communion avec le Père, parle inconsidérément lorsqu'il aperçoit Moïse et Élie. Vision combien glorieuse!
Jésus fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Matthieu 17, verset 2.
Ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur, comme de la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir.
Marc 9, verset 3.
Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair.
Luc 9, verset 29. Les trois disciples voient leur Seigneur transfiguré et accompagné maintenant de Moïse et Élie. Pierre, à peine réveillé, se met à parler. Il le fait d'une façon si irréfléchie qu'il place le Seigneur sur le même niveau que les deux hommes, deux protagonistes de l'histoire juive, Moïse, le législateur, Élie, le justicier. Moïse était mort et avait été enterré par les soins de l'Éternel. Élie ne mourut pas, mais fut enlevé dans un char de feu. Deux Rois 2, verset 11.
Et il arriva, comme ils allaient, marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon.
Ce dernier s'était efforcé de ramener le peuple apostat à la loi qu'ils avaient abandonnée, mais il faillit à sa mission en s'enfuyant en Horeb, où avait été donnée la loi, et
il demanda la mort pour son âme et dit, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
1 Roi 19, verset 4. Ici, le législateur et le justicier réapparaissent ensemble avec le Messie sur la montagne et
parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem.
Luc 9, verset 31. Ils ne mentionnent pas sa gloire, ni son royaume, mais ils s'entretiennent de ce qui formait la préoccupation du moment présent, c'est-à-dire la mort qu'il allait subir pour les siens. Il est précieux de constater comme le cœur apprend ce qui plaît au Seigneur quand il se trouve en sa présence. Matthieu 17 nous donne une petite image de ce que sera le royaume à venir du Seigneur. Moïse typifie l'homme qui est mort et sera ressuscité. Élie, celui qui sera enlevé sans passer par la mort, à la seconde venue du Seigneur. Tous deux représentent les saints célestes. Le côté terrestre est figuré par Pierre, Jacques et Jean. Les saints sur la terre, bien que n'occupant pas la position la plus élevée, se réjouiront de la gloire du Fils de l'homme quand son royaume sera établi. À la vue de cette scène de gloire, Pierre dit,
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. »
Verset 4. Luc ajoute,
« Ne sachant ce qu'il disait. »
Chapitre 9, verset 33. Et Marc,
ils ne savaient que dire, car ils étaient épouvantés.
Marc 9, verset 6. Ceci prouve combien il est dangereux de parler sans avoir la certitude de refléter la pensée du Seigneur. Moïse et Élie s'entretiennent donc avec le Seigneur de sa mort prochaine. Et Pierre, sans savoir ce qu'il dit, voudrait que s'établisse là le royaume. Mais Dieu ne peut pas supporter que l'on mette à niveau égal son Fils, le Sauveur, avec Moïse et Élie. Aussi, immédiatement,
une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. »
Verset 5. Sans aucun doute, le disciple se réjouit extrêmement de voir ensemble le Messie, le législateur et le justicier. Il aurait aimé faire durer cette rencontre bénie. Malheureusement, il semble retourner à son état d'esprit ancien lorsque le Seigneur devait lui dire « Va arrière de moi, Satan !» Lui qui était tombé aux pieds du Seigneur en l'adorant, lui qui l'avait confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il agit comme s'il avait oublié ses leçons et place le Fils de Dieu sur le même rang que ses serviteurs. Le Père ne peut supporter pareille atteinte à son Fils bien-aimé, et une nuée lumineuse les couvrit. Qu'était cette nuée lumineuse? Moïse et Élie furent enveloppés et cachés par cette nuée, pour nous la maison du Père. Ce que voyant, les disciples eurent peur. Être si près de Dieu dépassait leur foi et leur espérance. Ils avaient une leçon à apprendre. Les jours de Moïse, aussi bien que ceux d'Élie, étaient passés. Il y en avait un maintenant, en qui le Père avait mis tout son plaisir. Sa voix se fait entendre avec insistance. Écoutez-le. Au moment de son baptême, le Père avait dit simplement « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Il n'avait pas ajouté « Écoutez-le », car on pouvait supposer que chacun l'écouterait. Mais ici, où l'on voudrait le mettre au même niveau que les hommes, le Père ajoute « Écoutez-le ». De nos jours, on ne réclame pas trois tantes, mais, hélas, souvent, on en voudrait deux, car la loi est mise fréquemment sur le même pied que Christ. La vérité est entièrement révélée dans le Fils de Dieu. La loi était l'expression des droits de Dieu sur l'homme, mais l'époque de la loi est close. Elle a fait place à la pleine et parfaite révélation de ce que Dieu est et des relations avec le Père et le Fils qui découlent de la rédemption accomplie. Paul peut donc dire
« Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce ».
Romains 6, verset 14. Pierre n'est certes pas brillant ici. Moïse était le législateur, mais la loi ne peut pas sauver l'homme. Élie était le justicier, mais le jugement ne peut pas sauver l'homme. Seul Jésus, le Fils de Dieu, peut nous sauver, et il sauve quiconque vient à lui. Quand Pierre et ses compagnons entendirent ces mots, ils furent épouvantés et tombèrent sur leur face. Mais Jésus les toucha et leur dit
« Levez-vous, et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul.
Versets 7 et 8. De lui, nul ne s'effraie. Avant d'écrire ses épîtres, Pierre avait appris la leçon. Il se réjouit dans le Seigneur et rapporte seulement ces termes
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »
Il omet
« Écoutez-le,
car son cœur était alors en pleine communion avec Dieu. Le Fils est pour le cœur du Père un objet de joie et de délices, et les affections de Pierre y répondent entièrement. Il nous semble étrange que les disciples
eurent peur, comme ils,
Moïse et Élie,
entraient dans la nuée.
Ils n'auraient pas dû éprouver pareil sentiment, car plus nous serons conscients de ce que c'est que d'habiter dans la présence du Père, plus nos cœurs seront heureux. Ils devaient apprendre que, si les hommes disparaissent, Jésus demeure.
Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul.
Moïse peut disparaître, Élie peut disparaître, mais Jésus reste. Et le cœur a tout ce qu'il désire.
Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. »
Verset 9. Marc ajoute qu'ils se demandèrent
« Ce que c'était que ressuscité d'entre les morts. »
Chapitre 9, verset 10.
Et ils gardèrent cette parole s'entre-demandant ce que c'était que ressusciter d'entre les morts.
Ce n'est pas la résurrection des morts qui les préoccupe, car tous les Juifs le comprenaient, mais la résurrection d'entre les morts. La résurrection du Seigneur d'entre les morts fut la marque de la faveur toute spéciale de Dieu, comme elle fut les prémices de ceux qui seront ainsi ressuscités. La fin du chapitre 17 de Matthieu relate un incident à propos du tribut réclamé à Pierre. Capernaum, verset 24, était probablement la propre ville, chapitre 9, verset 1, du Seigneur. Matthieu 9, verset 1.
Et étant monté dans la nacelle, il passa à l'autre rive et vint dans sa propre ville.
Or, c'est dans sa propre ville que des impôts sont prélevés sur le contribuable. Le tribut, dont il s'agit ici, n'est pas l'impôt perçu par les Romains, mais le tribut du temple, c'est-à-dire un didrachme, une pièce de monnaie, valant à peu près 1,40 francs, monnaie or, que chaque juif devait payer pour l'entretien du temple. Ainsi donc cette question.
Votre maître ne paye-t-il pas les didrachmes?
Verset 24. Signifiait en réalité, votre maître est-il un bon juif? Mon maître un bon juif? Répond Pierre l'impulsif. Mais naturellement il l'est. Ce petit dialogue se passait en dehors de la maison, en dehors de la présence du Seigneur. Quand Pierre entre, Jésus lui démontre qu'il demeure bien au-dessus de l'homme, qu'il est Dieu, en mettant à découvert ce qui était dans le cœur de son disciple, comme ses pensées les plus secrètes. Sans attendre de réponse, le Seigneur continue.
Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Pierre lui dit des étrangers. Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts.
Versets 25 et 26. Jésus poursuit en montrant qui sont les fils. Qui était le grand roi? Dieu. Et qui était le fils du grand roi? Lui-même. Mais il voulait encore prouver que lui et Pierre étaient tous deux fils du grand roi. Il s'unit à Pierre en disant,
« Afin que nous ne les scandalisions pas. »
Verset 27. Jésus met en lumière un grand principe. Si quelqu'un pense avoir des droits à maintenir, il devra les maintenir seul. Le Seigneur ne lui viendra pas en aide. Il est fils de Dieu, donc libre. Mais,
afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi.
Verset 27. Va, dit-il, retourne à la mer, là où je t'ai appelé, tu trouveras un poisson qui t'apportera la pièce exacte de monnaie pour payer ton tribut et le mien. Il est bon de remarquer que le statère que Pierre trouve dans la bouche du poisson valait exactement 2 didrachmes. Jésus prouvait donc qu'il savait toutes choses, ce qui se passait dans le cœur de Pierre, comme ce qui s'était passé en dehors de la maison. Il prouve également qu'il peut toutes choses en commandant au poisson de livrer le tribut nécessaire.
Les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers,
selon le psaume 8, sont tous sous son contrôle et sous sa direction. Comme fils de l'homme, il peut ordonner aux poissons de la mer de donner le nécessaire au moment opportun. Par cet incident, le Seigneur nous enseigne que nous sommes liés à lui, unis à lui. Aussi, tout le long du chemin, devrions-nous marcher avec lui et nous laisser conduire par lui. Chapitre 8. Le lavage des pieds. Jean 13. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et, pendant qu'ils étaient à souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous, vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez. En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Je ne parle pas de vous tous. Moi, je connais ceux que j'ai choisis. Mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyez que c'est moi. En vérité, je vous dis, « Celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit, « en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui ils parlaient. Or, l'un d'entre ses disciples, que Jésus aimait, était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, lequel est-ce ? » Jésus répond, « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela, car quelques-uns pensaient que, puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt. Or, il était nuit. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera. Enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et, comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir. Je vous le dis aussi maintenant à vous. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu laisseras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. » Ce chapitre occupe une place toute particulière dans l'Évangile. L'histoire terrestre du Seigneur est comme terminée, pour ainsi dire, et il prévoit, ici et dans les quatre chapitres suivants, la croix et ses résultats, par laquelle il glorifia Dieu pleinement. Au moment de quitter cette terre, il associe ses disciples à la place nouvelle qu'il va occuper au ciel. Ils l'ont considéré comme le Messie, le roi, prêt à établir son royaume sur terre. Mais c'est une chose passée, et avant de les quitter, Jésus leur fait comprendre ce qu'il voudrait être pour eux et ce que eux devraient être pour lui. Sur la terre, il les avait accompagnés. Désormais, les mêmes rapports n'existeront plus. Il va leur prouver qu'il peut les prendre là où il va et les rendre capables d'y aller. Jésus, dans ce passage, occupe la place du serviteur, le serviteur parfait, le Seigneur de tous, ne cessera jamais d'être au service de son peuple.
Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin.
Verset 1. Pas de fin à l'amour de notre Seigneur. Les circonstances peuvent changer, mais son amour demeure invariable. En ceci, le Seigneur se montre le parfait antitype du serviteur hébreu en Exode 21. Il pouvait sortir libre, mais devait laisser sa femme et ses enfants derrière lui.
Si le serviteur dit positivement « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira à toujours.
Exode 21, versets 5 et 6. Il ne veut pas être séparé de ceux qu'il aime. Telle est la vraie signification de Jean 13. Un rapport existe entre la scène et le lavage des pieds quant à ceux qui s'en occupèrent. Matthieu nous informe, chapitre 26, versets 17 à 19, que les disciples s'enquirent auprès du Seigneur où ils devaient lui préparer à manger, mais sans donner de nom. Matthieu 26, versets 17 à 19.
Et le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus, disant, « Où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque ?» Et il dit, « Allez à la ville auprès d'un tel et dites-lui. » Le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils apprêtèrent la Pâque.
Marc, à ce même sujet, dit, chapitre 14, versets 12 à 16, il envoie deux de ses disciples. Marc 14, versets 12 à 16.
Et le premier jour des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allions préparer ce qu'il faut, afin que tu manges la Pâque ?» Et il envoie deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville. » Et un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est mon logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et lui vous montrera une grande chambre garnie, toute prête. Apprêtez-nous là ce qu'il faut. Et ses disciples s'en allèrent et entrèrent dans la ville, et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent la Pâque.
Luc seul les nomme.
Il envoya Pierre et Jean, disant, « Allez, et apprêtez-nous la Pâque, afin que nous la mangions. »
Chapitre 22, verset 8. Jean, associé à Pierre pour ce service, avec son habituelle réserve, ne fait aucune allusion au préparatif du souper, mais rapporte le récit du lavage des pieds, le seul évangéliste qui nous en fasse part. Le Seigneur, en s'abaissant, rendit ses disciples capables d'en jouir davantage. Pierre lui-même en éprouva certainement une très grande joie, bien qu'il reculât devant la grâce du Seigneur, prêt à laver ses pieds fatigués. Jésus savait qu'il allait mourir.
Il se lève du souper et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit,
c'est-à-dire il prend la place du serviteur.
Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint.
Versets 4 et 5. Ainsi le voulait la coutume du pays. lorsque quelqu'un recevait des hôtes, son premier soin consistait à apporter de l'eau pour laver leurs pieds. C'est ce que fit Abraham en Genèse 18, versets 3 et 4.
Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Comprenne, je te prie, un peu d'eau et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre. »
En Luc 7, le Seigneur reproche à Simon de l'avoir négligé. Jésus prend la place de l'hôte et fournit l'eau. Puis il prend la place de l'esclave et lave les pieds. Le Seigneur de gloire s'abaisse à laver les pieds de ces 12 hommes. Quelle grâce parfaite ! Celui qui était Dieu s'est abaissé, non seulement en devenant un homme, mais encore en consentant à un acte que peu de nous consentiraient à accomplir. Après les avoir rafraîchis et réconfortés, il désire leur faire partager la fête à laquelle il les a conviés. Pierre, toujours le même, s'avance et parle, tel un être humain.
« Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?»
Le Seigneur de gloire, s'humiliant à ce point, était, pour lui, une chose incompréhensible. Cette objection permet à Jésus de développer une autre vérité.
Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. »
Verset 7. Il fallait attendre la venue du Saint-Esprit pour comprendre tout le sens de ce geste. Tant que le Seigneur fut ici-bas, ses paroles furent mal interprétées. Le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence pour connaître les pensées et les voies de Dieu, et c'est ce qui marque la différence entre les saints de maintenant et ceux des temps passés. Pierre, encore incapable de comprendre la portée spirituelle de cet acte, ajoute
« Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. »
Verset 8. Christ ne peut pas avoir part avec l'homme dans sa convoitise de pécheur. « Soyez dépendant de moi, dit-il, afin de pouvoir occuper la place que je vous réserve. » Si je ne suis pas lavé dans le sang de Christ, et si je ne connais pas la puissance purificatrice de l'eau, je n'ai pas de part avec Christ. Il est mort pour me purifier, il vit pour me garder pur. Si, toute première chose, je ne suis pas lavé dans le sang de Christ, je n'ai aucun lien avec lui. Mais si, pour me maintenir dans cet état, je ne suis pas lavé dans l'eau, je n'ai pas de part avec lui. Pierre ajoute,
« Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. »
Verset 9. Il est comme beaucoup de chrétiens. Ils sont lavés dans le sang de leur Sauveur et le savent. Ils ont le pardon de leurs péchés et le savent. Et s'ils déshonorent leur Seigneur, ils croient devoir revenir en arrière et être de nouveau lavés dans le sang. Cela réduirait la valeur du sang de Christ au rang du sang des taureaux et des boucs de l'Ancien Testament. Nous avons cette assurance.
Celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu.
Hébreux 10, verset 12. L'efficacité de ce sang demeure à toujours devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'imperfection des sacrifices exigeait nécessairement leur répétition, mais la perfection du sang de Christ rend sa répétition impossible. Nos chutes journalières, dont la purification se fait par l'eau, non par le sang, c'est-à-dire par la parole de Dieu, tel est le sujet ici.
« Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, »
dit Pierre. 1 Pierre 1, verset 22. L'eau est la parole de Dieu appliquée par l'Esprit, la parole de Dieu qui me purifie et me juge entièrement.
Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net, et vous, vous êtes net, mais non pas tous. Car il savait qui le livrerait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. »
Versets 10 et 11. Le Seigneur emploie deux mots différents pour « laver ». Le premier donne l'idée du grand bain romain, pris le matin pour tout le corps. Pendant la journée, l'usage voulait qu'on se rafraîchisse les pieds, c'est le sens du second terme. L'eau représente la purification par la parole, dans la puissance de l'esprit.
Si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit,
Jean 3, verset 5, le corps entier est lavé. Il y a une purification des pensées, aussi bien que des actions, par le moyen de celui qui forme et gouverne nos cœurs, et ceci nécessairement en rapport avec l'œuvre de Christ à la croix. Tous les croyants sont lavés dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et sont devenus plus blancs que la neige. Christ peut dire « tout net », mais tant que nous traversons ce monde,
celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds.
Les pieds, c'est la marche. Tant que nous vivons dans ce monde, nous nous souillons. Cela ne convient pas à la maison de Dieu. Il y remédie par l'amour de notre Sauveur. Il lave nos pieds et emploie de l'eau dans ce but. La conversion ne se fait pas deux fois. Quand la parole a été appliquée une fois par le Saint-Esprit, l'œuvre est accomplie et ne peut être annulée, pas plus que le sang versé ne peut l'être encore une fois. Je ne peux pas naître deux fois ou laver mes péchés deux fois dans le sang de Christ. Une fois est le terme de l'Écriture à ce sujet. Mais je peux pécher et souiller mes pieds et interrompre la communion avec Dieu. Alors agit l'amour de mon Sauveur. Bien que dans la gloire, il emploie le linge et le bassin. Comment, direz-vous? Par la parole de Dieu, donc l'eau. Comment nous atteint cette parole, c'est une autre question. Cela peut être en particulier quand personne ne nous voit, sinon Dieu seul, ou bien par une prédication. Quel que soit le moyen, la parole est toujours celle du Seigneur, c'est le ministère actuel de Christ. Nous sommes très portés à considérer le vase qu'il utilise, si je puis dire ainsi celui qui contient l'eau. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui parle. Il a l'œil sur chacune de ses brebis, il connaît exactement ses besoins et sait quelle parole lui adresser. On peut à juste titre se demander si le lavage des pieds nous parle de Jésus comme sacrificateur ou comme avocat. La différence est importante, et Christ revêt ces deux caractères dans son intercession en notre faveur. Le sacrificateur travaille pour que nous ne péchions pas. L'avocat intercède pour les péchés commis, afin que la communion puisse être rétablie. Ici, c'est l'avocat qui entre en action par le ministère de son amour parfait, qui ne peut se reposer jusqu'à ce qu'il ait les siens auprès de lui, et qu'il ait éloigné tout ce qui pourrait les tenir à distance. L'amour aime servir, et l'amour qui sert reçoit de la joie en retour, comme celui qui arrose est lui-même arrosé. Le sacrificateur maintient l'âme devant Dieu et ne s'attarde pas aux fautes. Je suis gardé devant Dieu par toute la force de son épaule et l'affection de son cœur, par toute l'efficacité de l'œuvre qu'il accomplit, avant d'être sacrificateur, car il ne le fut pas sur la terre. 1 Jean chapitre 2 nous présente ce qu'est l'avocat. Le même mot est traduit par consolateur en Jean chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Le chrétien a deux consolateurs, l'un au ciel, l'autre sur la terre. Au ciel, l'avocat, le Seigneur Jésus, est devant le Père. Sur la terre, le Consolateur, le Saint-Esprit, habite dans le croyant. Le Seigneur ne cesse pas d'aimer, et le Saint-Esprit ne quitte jamais le croyant. Si je considère le Seigneur en haut ou l'Esprit sur la terre, tous les deux travaillent aux intérêts et à la bénédiction de ceux qu'ils servent.
Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste.
1 Jean 2, verset 1. Et
le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
1 Jean 1, verset 7. Le sang nous rend continuellement purs et nous maintient purs. Il nous conserve purs devant Dieu en parfaite justice. L'eau garde notre conscience pure et nous maintient dans la communion.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous.
1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous avons raison, car Christ les a tous pris sur lui à la croix. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas en nous, car la nature humaine est pécheresse, et la chair vit encore en nous. Comment faire alors pour me débarrasser de ces péchés quotidiens?
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.
1 Jean 1, verset 9. Cela suppose donc la possibilité du péché qui interrompt la communion. Comment faire pour revenir et retrouver la communion? Je ne suis pas un pécheur perdu, mais un enfant désobéissant. Aussi, celui qui est droit devant Dieu confessera son péché et apprendra ce qu'est le pardon. Demander pardon ou bien confesser ses péchés sont deux choses très différentes. La confession exige un travail de conscience sincère et apporte la bénédiction. Demander pardon est plus superficiel. La confession doit être individuelle, car c'est moi seul qui ai péché, et je confesse mon péché à mon Père. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. 1 Jean 1, verset 10, car il affirme que tous ont péché. Romains 3, verset 23. 1 Jean 1, verset 10,
si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous.
Romains 3, verset 23,
tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu.
Mais voici ensuite le secours pour celui qui a commis une faute.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.
Celui qui, en toute sincérité, cherche ce secours peut dire
« Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. »
Mais que trouve-t-il ?
« Tu as pardonné l'iniquité de mon péché. »
Psaume 32, verset 5. Mais il y a encore quelque chose de plus. Nous ne devrions pas pécher, car il n'y a pas de raison pour que nous péchions. Si nous laissons agir notre propre nature, nous avons mauvaise conscience.
Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché.
1 Jean 2, verset 6. Christ est la vie du chrétien, le Saint-Esprit sa puissance, et Paul dit
« Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. »
Philippiens 4, verset 13. Si je pêche, l'avocat divin intercède pour que je sois restauré. Il agit en grâce, comme nous le verrons plus tard dans l'histoire de Pierre. Son intercession permet au Saint-Esprit de placer mon péché sur ma conscience. La communion est interrompue jusqu'à ce que je l'ai confessé à mon Père. Alors seulement ma conscience sera purifiée par l'effet de la parole, et je retrouverai la communion avec Dieu. Jésus pria avant que Pierre péchât, et quand Pierre eut péché et renié son maître, le Seigneur se retourna pour regarder Pierre. La prière du Seigneur amena la restauration de Pierre, mais le regard du Seigneur dans la cour de la maison du souverain sacrificateur en fut le moyen. Le lavage des pieds est donc un service dont Christ est occupé pour nous maintenant. Si nous sommes négligents et nous rendons indignes d'entrer dans la présence de Dieu, Christ nous purifie par sa parole, afin que notre communion avec notre Dieu et Père soit rétablie. Après avoir repris ses vêtements, le Seigneur presse ses disciples de suivre son exemple.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
Verset 14. C'est-à-dire, aidez-vous mutuellement. Le lavage des pieds ne consiste pas à remarquer les fautes d'autrui. Si nous voulons laver les pieds de notre prochain, abaissons-nous d'abord nous-mêmes.
Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites.
Verset 17. Si nous étions animés d'un esprit de douceur et que nous sachions prendre la place de tout enfant de Dieu qui a manqué, nous comprendrions mieux ce que cela signifie. Pour le faire, nous devrions être humbles comme Christ. Je suis frappé de voir comme l'histoire de Pierre remplit les évangiles et combien d'enseignements nous lui devons. Ses questions, ses fautes, ses revendications, ses actes impulsifs sont tous des moyens pour le Seigneur de nous instruire. Quelques-unes de ces questions sont posées en Jean 13, mais d'autres, disséminées dans les récits des évangiles, nous les réservons pour le chapitre suivant.